When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
Génération Podcast.
Génération Podcast.
Génération Podcast.
Génération
Podcast.
Génération.
Génération Podcast.
Podcast.
Génération Podcast.
Generation Podcast.
Salut, salut. Et bienvenue dans Génération Podcast, le podcast qui parle de podcast. Je vous l'annonçais la semaine dernière, cette nouvelle saison, la saison 3 du podcast, se veut internationale, inclusive et diverse. Alors qui de mieux que Laurie Martinez, la créatrice du studio Ochenta, pour ouvrir le bal. Je suis Anne-Fleur Andrely, vous écoutez Génération Podcast, c'est parti. Laurie, tu es américano-colombienne, t'es journaliste, t'es productrice de podcast, tu viens du borough du Queens à New York et tu as fondé le studio Ochenta en 2019, qui est donc un studio de création de podcasts multilingues et multiculturels, qui était reconnu pour son travail plein de fois, dont en 2020 par un Webby Award. Bravo. Tu es comme moi installée dans un pays que tu aimes, mais dans lequel tu n'as pas grandi, puisque tu es en ce moment même à Paris et que tu as vécu en Europe, en Inde, j'ai découvert ça, et aux États-Unis. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et bienvenue dans Génération Podcast.
Merci de m'avoir invitée.
Avec plaisir. Je te propose qu'on plonge directement dans le vif du sujet, on va parler du son. Est-ce que tu te souviens du début de ton histoire, j'ai envie de dire d'amour, mais je ne sais pas, je ne veux pas mettre de mots dans ta bouche, avec l'audio?
Alors, ça remonte il y a très très longtemps. En fait, j'avais 17 ans, je crois.
Ouais.
Je savais que je voulais être journaliste, je voulais raconter des histoires parce que mon grand-père, il était journaliste et il a toujours partagé comment c'était fantastique de raconter les histoires des gens, découvrir le monde à travers le journalisme.
Mais, il était dans l'audio ou pas du tout?
Non, pas du tout. Il D'accord. était journaliste, rédacteur, chef à El Tiempo, qui est le journal le plus grand en Colombie.
D'accord.
Et du coup, je savais déjà que je voulais être journaliste, mais je ne savais pas trop ce qui serait mon dada.
Ouais.
Donc, j'ai fait un voyage à Londres à 17 ans. Et dans l'avion, j'ai rencontré une fille. J'ai dit oui, je veux être journaliste, mais j'ai commencé à rédiger des articles et tout ça. Mais je ne suis pas trop fan, je ne sais pas trop si c'est pour moi. Elle m'a dit, mais moi, je travaille à la radio. Je dis, mais à quelle radio? Bah, la BBC.
Ah, waouh.
Et c'était tellement... moi, j'étais juste là pour 3 semaines, en fait. Ouais. Et pendant toutes les 3 semaines, j'ai fait une espèce de stage d'été.
Avec BBC. La nana que tu as rencontrée dans l'avion?
Exactement.
Qui t'a invitée chez elle?
Oui, enfin, au BBC Radio 4.
Waouh.
Ouais, et c'était vraiment, vraiment la première fois que j'étais derrière avec tous les trucs d'ingénieur, de son et tout... Et j'étais impressionnée par tout ce qui va derrière, les choses techniques et aussi juste... en fait, je me rappelle tellement d'avoir vu la productrice qui était en charge de la série. Et les gens, ils étaient derrière, qui étaient les animateurs, les radiojournalistes. Mais la productrice, elle gérait vraiment avec le timing et tout, parce que c'est BBC Radio 4. Hein, ils ont le timing exact de chaque série. Et j'adorais voir comment elle était chef d'orchestre. Et que je pourrais éventuellement prendre un rôle comme ça dans ce domaine. Et donc, j'ai commencé à aimer le radio à partir de ce moment-là.
T'écoutais pas particulièrement la radio avant ça?
Non, pas vraiment. Moi, j'écoutais la radio pop, tu sais, pop musique et tout ça, mais pas vraiment. J'avais pas de culture, même pas de radio publique, parce qu'en étant fille d'immigrés, en fait, la musique que j'écoutais et la radio que j'écoutais, c'était tout en espagnol. C'était ouais. pas du tout des reportages, c'était juste la musique et des blagues, des trucs. C'était pas radio publique, c'était pas NPR qu'on ouais. écoutait à la maison. Mais cette expérience-là, en fait, ça m'a permis de faire mon première interview en personne, justement en utilisant le fait que je parlais espagnol. D'accord. Donc, en fait, il devrait interviewer Pedro Almodóvar, le directeur espagnol. Wow. Et ce jour-là, moi, j'étais la seule au bureau, la stagiaire qui parlait espagnol.
suis là pour 3 semaines. Ah oui, c'est incroyable comme première interview.
Eh oui. Donc, t'imagines que normal que moi je sois bluffée par le truc parce que j'ai eu cette première expérience avec un super directeur et tout. J'ai rencontré, en fait, ce qui était aussi un peu awkward parce que moi, je suis latine de base, mm-hmm. je parle espagnol d'Amérique latine. Et l'interview, il s'est passé en anglais. Hein. C'était pas parce que le directeur, il parlait pas anglais, mais c'est parce qu'il se doutait que peut-être il y aurait des problèmes de traduction. Donc, dans les questions, il pourrait peut-être pas comprendre ce qu'on lui proposait comme question, etc. Ou vice-versa. Donc, j'étais là un peu pour intervenir. Mais moi, j'étais stagiaire, 17 ans. Qu'est-ce que j'allais dire à Pedro Almodóvar? Je ne te comprends pas en anglais, quoi.
Ton accent, donc, Pedro.
Non, c'était super drôle et j'ai adoré cette expérience. Et c'était vraiment quand je l'écoutais parler de sa vie, de son œuvre et tout ça, j'ai kiffé. Voilà. Donc après ça, je me suis dédiée full time à la radio en rentrant aux États-Unis. J'ai rejoint la radio communautaire dans ma ville. Mm-hmm. J'ai rejoint la radio publique peu de temps après. Donc j'étais à NPR pour faire ma formation professionnelle officielle. Et voilà. Et donc ça, c'était l'amour de la radio, amour de l'audio et tout ça.
Et alors, quand tu dis que tu as été formée à NPR, parce que tu as fait une formation théorique aussi à l'école en parallèle, ou NPR, tu veux dire que tu as formé au cours de tes premières expériences, ou ils ont une formation véritablement?
Alors, c'est un peu particulier parce que moi, mon université avait une radio communautaire dans laquelle on faisait des apprentissages.
Ouais.
Donc, j'ai fait apprenti dans cette radio qui était une vraie radio régionale,
d'accord,
mais qui était dans l'université, en fait.
Okay.
J'ai fait ça pendant un an et après ça, j'ai décroché une stage vraie dans NPR, donc dans une radio publique qui était locale et qui faisait partie de NPR. Parce qu'en fait, ce que les Français ne comprennent pas, c'est un peu comme Radio France, mais il y a aussi France Bleu. Moi, j'étais dans le petit France Bleu de ça. NPR est énorme, c'est beaucoup, beaucoup de stations locaux. Et du coup, j'étais dans celle-là, une petite station qui faisait des reportages sur des élections municipaux, sur la migration des poissons dans la rivière à côté.
Très éclectique.
Voilà, voilà.
Donc du coup, tu le dis, tu as travaillé en radio pour des médias qu'on pourrait qualifier de traditionnels, mais aussi... Quand je faisais des recherches un peu sur ton parcours pour l'ONU en Inde, est-ce que tu peux nous raconter cette expérience, de quoi il s'agissait?
Oui, alors pour la Journée mondiale de la radio, j'ai proposé une documentaire sur le pouvoir de la radio en Inde et de cet outil pour la communication en temps de désastre. Donc en fait, c'était le thème de cette année-là. C'était comment la radio peut sauver des vies, en fait.
D'accord. Okay.
Et même si j'avais commencé à déjà travailler un peu dans le podcast, la radio, c'était toujours un premier amour pour moi. Donc, j'ai pitché cette idée et j'ai fait ce documentaire. Et donc, j'ai passé un mois à Pondichéry, Chennai, à faire ce reportage sur les grandes inondations qui ont eu lieu cette année-là dans la région. Et j'ai visité... des gens qui étaient affectés par ça. Et j'ai parlé avec le gouvernement indien sur ça. Et j'ai réussi à décrocher des entretiens avec des gens qui étaient dans le gouvernement, qui avaient décidé d'utiliser la radio comme outil et tout ça. Mm-hmm. Et encore une fois, moi, j'ai eu beaucoup de chance. Même si c'est juste 4 semaines, j'ai réussi à avoir des interviews que normalement, ça prendrait des semaines et des semaines à avoir. Mais c'était une super expérience et on a aussi travaillé avec une collègue à moi qui a fait la version vidéo. Donc elle a aussi fait, en complément de cette documentaire sonore, on avait un vidéo visuel.
Et comment t'expliques, parce que moi je suis un peu contre l'idée de dire que c'est que de la chance, est-ce que t'es plutôt du genre à saisir en fait les opportunités, enfin comme tu dis à Londres t'as rencontré la nana dans l'avion et puis tu t'es retrouvé à interviewer Almodóvar quelques semaines plus tard aussi, enfin est-ce que c'est un truc en fait que tu retrouves un peu partout dans ta carrière ou dans ta vie perso, tu saisis les opportunités comme elles viennent ou t'es très ouverte ou je sais pas si t'es capable d'expliquer ça?
Alors, je pense que je peux l'attribuer à 2 choses. Mmh. Une, c'est le fait que je suis fille d'immigrée et du coup, je n'ai pas le choix, je dois avoir du succès. Ce n'est pas possible pour moi de juste me laisser faire ou, comment dire, de laisser m'abattre par une manque d'opportunité. Il ne faut pas penser comme ça. Il faut que moi, j'utilise le privilège que mes parents m'ont donné en étant américaine, née aux États-Unis, avec un passeport américain. Et le fait que je parle espagnol et anglais et tout ça, c'est un atout que j'ai utilisé tout le long de ma carrière. Et vraiment, j'ai toujours pensé, mais il faut saisir une opportunité, il faut dire... à la fille, non, mais moi aussi, je veux être journaliste. Il ne faut pas hésiter, en fait. Et j'ai eu beaucoup de chance dans ce sens-là parce que les gens, ils étaient ouverts à ma passion parce que j'étais toujours très, très passionnée par ce que je fais. Et c'était difficile des fois, mais ce n'était pas une question de « bon, on va arrêter, je ne trouve pas des choses à faire ». Non, non, il faut trouver, il faut chercher. Donc, j'ai toujours été... très à la recherche des opportunités, très à me mettre en avant, un peu à l'américaine. Donc, je dirais que la deuxième chose qui m'a aidée beaucoup, c'est que je suis américaine. Et en fait, on nous apprend depuis un très jeune âge qu'on peut tout réussir, on peut tout faire, même si on est médiocre. Donc, je ne dis pas que je suis médiocre, mais je dis que en fait, il faut avoir beaucoup de confiance en soi. Et j'ai appris ça. Et comme ça, j'ai réussi à rentrer dans des salles où moi, j'étais la seule femme ou j'étais la seule latine. Et je n'ai pas peur parce que je mérite d'être là. Et autant que le mec qui est américain de souche ou français de souche. Ouais. Voilà.
Comment est-ce que tu en es arrivée au podcast, du coup, à partir de cette trajectoire professionnelle?
Alors, avant de partir en France, j'avais déjà commencé à faire des projets de podcast. C'était vraiment les très, très premières années de podcast à la radio publique, vers 2014-2015. C'était les années de Serial. Et donc, j'ai fait partie de l'équipe web qui aidait à mettre les reportages en ligne et les appeler podcasts.
C'est-à-dire, c'était des rediffusions, tu veux dire
Oui, des rediffusions et on les appelait podcasts parce que ça avait commencé à être utilisé comme le mot clé, quoi. Et après, quand je suis partie en France, j'ai commencé à faire du conseil sur des podcasts indépendants en utilisant un peu une méthode de branding et communication que j'avais appris aux États-Unis liée au podcast. Donc, comment on présente un podcast, comment c'est différent d'une rediffusion radio. En fait, le package qu'on faisait pour le podcast n'était pas le même. Donc, j'ai commencé à me présenter en fait dans mon entourage et quand j'ai rencontré des podcasteurs indépendants en France, c'était vraiment moi je viens de la radio publique, on le fait comme ça, je sais que vous êtes inspiré par les États-Unis, moi je peux vous apporter cette savoir-faire. Donc j'ai commencé à produire des podcasts indépendants un peu partout en France et en plus de juste faire des piges radio-journalistiques dans les trois langues que je parle. Et du coup, j'ai commencé par travailler avec Julie Gerbet de À Poil Podcast, que vous connaissez peut-être. Et c'était une belle collaboration. On avait commencé depuis le tout début du projet. Donc, tout ce qui est création de format, vraiment réfléchir au type de questions qu'on voulait poser, le concept, etc. Et après, pour enregistrement et post-production. Donc, j'ai vraiment guidé ce projet pour qu'il soit packagé comme un podcast de qualité. Voilà. Et ce podcast, il a eu beaucoup de succès. Et donc, j'ai commencé à produire d'autres podcasts à côté et aussi en continuant à produire aux États-Unis. Donc, en fait, on me demandait beaucoup plus de podcasts maintenant en étant en Europe. Et je continuais à travailler avec des francophones sur des podcasts en français. Donc, je fais partie des tout premier podcasteur en France, en n'étant pas française, justement parce que j'étais là au tout début. Donc, c'était vraiment 2015-2016 où les gens, ils étaient en train de se questionner. Nouvelles Écoutes étaient en train de se lancer. L'Umédia avait commencé l'année d'après. Donc, c'était vraiment au tout début. Et tous ces gens-là, ils se connaissent. Et c'est une super communauté. Et je suis très, très contente d'avoir été accueillie en étant étrangère, parce qu'ils sont des super, super journalistes, des super personnes qui sont dans le podcast en France. Et j'ai toujours été très, très fière de faire partie de cette communauté. D'ailleurs, j'avais fait un article peu de temps après sur les femmes dans le podcast, parce que je trouvais qu'en France, à l'opposé des autres pays, c'est les femmes qui prennent la parole, C'est les femmes qui ont les boîtes de podcasts et tout ça. Et c'est dingue. Et donc, je les félicite et je suis très, très contente de voir comment toutes ces boîtes-là ont évolué et d'en faire partie aussi avec mon studio maintenant.
Je projette peut-être un peu mon expérience perso, mais du coup, je te demande, puisque tu le dis, en fait, tu travaillais beaucoup entre les États-Unis, la France et même peut-être d'autres pays en langue espagnole. Comment est-ce que tu parviens à faire ce grand écart entre plusieurs pays, ne serait-ce que même logistiquement, entre différents fuseaux horaires? Comment est-ce que tu arrives, en fait, tu vois, à te faire une place, finalement, dans tous ces écosystèmes, tu vois, professionnellement?
Alors, c'est difficile. Je pense que je l'ai fait pendant tellement des années seule, en tant que freelance. En fait, je me brandais, disons, j'ai vraiment fait une marque personnelle d'être internationale. D'accord. J'ai toujours voulu être ça. En fait, quand je suis partie en France, je me suis dit, je veux être une journaliste internationale. Je vais utiliser les langues que je parle et peu importe le médium, je vais essayer de faire des reportages dans les langues que je parle. Je ne peux pas le faire aux États-Unis, aux US, il n'y avait pas, c'était pas vu comme une valeur rajoutée, en fait, aux États-Unis. À cette époque-là, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de contenu en espagnol et ça commence à se voir, mais disons qu'à l'époque, non. Donc, je me suis toujours un peu présentée comme ça. Et donc, je n'ai jamais eu du mal à me placer dans ces cultures parce que c'était authentique à chaque fois. Donc, authentiquement, j'ai grandi avec la culture latine. Donc, je peux me présenter, je peux proposer des projets parce que je connais cette audience. Pareil pour les États-Unis, les Américains, je les connais parce que je suis américaine dans tous les cas. En France, c'était encore une autre challenge, mais ce qui était génial, c'est que j'avais travaillé avec des gens qui avaient des beaux projets, qui étaient locaux, et sur lesquels j'ai apporté pas le côté créatif, mais le côté technique et professionnel. Je connais mes forces, je connais mes... Comment dire weaknesses. Oui. Je ne suis pas française, donc je sais que je ne connais pas les Français aussi bien qu'une Française. Mais ce que je peux apporter à cette audience, c'est cette connaissance, c'est ce côté professionnel de podcast. Donc, c'est comme ça que j'ai trouvé. Et maintenant, j'ai une énorme gratitude d'avoir une équipe qui m'aide à travailler à travers tous ces fuseaux horaires. Ouais. Parce que c'est dur. Alors, on a des clients à Los Angeles, là, et je ne t'explique pas. Ouais, c'est très compliqué. Mais c'est cool parce qu'en plus, on travaille tous remote. Donc, on n'a jamais eu des soucis à produire des choses internationales comme ça parce que notre travail, il est quand même digital.
Est-ce que tu te souviens du premier podcast que tu as écouté, peut-être côté US, côté espagnol aussi, parce qu'on n'en parle pas, en espagnol et en France, puisque tu es arrivée finalement au début de la vague podcast en France.
Alors, je vais dire, le premier podcast en espagnol que j'ai écouté, c'était un podcast qui s'appelait El Amor Después, et c'était un podcast argentin d'un studio qui s'appelle Posta, et ils font c'était sur les ruptures amoureuses. Donc, chaque épisode, c'était deux amis qui parlaient d'une expérience qui a été envoyée par mail ou un truc comme ça, qui racontait une expérience de cette rupture. Et j'ai adoré le format, les hosts, ils étaient cool. Et surtout, c'était la première fois que j'avais écouté ça en espagnol. Donc, pour moi, c'était waouh, je suis super contente d'écouter ça dans ma langue. Parce que c'est ma langue maternelle à la base, j'ai appris l'espagnol. En premier, c'est pour ça que mon accent français, c'est latin et pas américain. et donc, j'étais super contente de le découvrir. Après, en américain, comme tout le monde, c'était Serial. Mais le premier qui m'a vraiment fait devenir passionnée de ça, c'était Welcome to Night Vale, qui est un podcast de fiction qui... Comment expliquer ça? C'est un programme de radio fictionnel dans une ville qui... expérimente des choses très bizarres. Et le journaliste qui anime le programme parle de tous ces faits divers de cette ville bizarre. Genre, le ciel est vert aujourd'hui, pourquoi? Et c'était tellement drôle et c'était tellement indépendant que j'ai adoré. Et il ne se prend pas au sérieux, cette série. C'était super. Et en France, la première que j'ai écoutée, c'était vraiment La Poudre.
D'accord.
C'était le premier. Et j'étais vraiment... J'ai adoré ce format d'interview. Parce que même si l'interview, c'est un format classique de base et que beaucoup de gens font, j'aimais beaucoup la manière dont Lorraine Bastide, elle menait les entretiens. Mm-hmm. Donc, tu avais envie d'écouter la suite, même si tu ne connaissais pas la personne. Et ouais. Ça, c'est fort.
Ouais,
c'est cool. Donc, j'ai toujours été très impressionnée par ça.
Finalement, après ces années de freelance, de radio-journalisme pour toute une enfin, tout, pour plein de clients, j'arrive pas à trouver mes mots, excuse-moi. En 2019, tu crées Ochenta. Tout d'abord, je te propose qu'on parle du nom. J'ai jamais fait d'espagnol de ma vie, mais selon Google Translate, Ochenta, ça veut dire 80, c'est ça? Pourquoi ce nom?
Alors, Ochenta, c'était partie de mon adresse à la maison, à Queens. J'ai passé beaucoup de temps à réfléchir, mais comment je vais appeler ma boîte? Déjà, j'ai pris beaucoup de temps à décider, OK, de me lancer à faire une boîte et pas juste rester freelance, parce que c'est beaucoup plus de galère une société que de juste être freelance. Mais quand j'ai décidé de vraiment faire le pas, j'ai passé beaucoup de semaines à penser, mais qu'est-ce qui me représenterait le plus? Qu'est-ce qui représenterait cette multiculturalité avec qui j'ai grandi? Et ce qu'on propose comme contenu et qui serait possible de prononcer dans les trois langues. Au moins les trois langues.
Ouais.
Pour les autres langues, ça serait compliqué, je crois.
Les trois langues étant donc anglais, espagnol, français.
Exactement. Parce qu'à la base, Ochenta, je l'ai lancé avec les trois langues que je parle moi-même. Aujourd'hui, on présente 27 langues. C'est autre chose. Mais à la base, c'était ces trois-là. Donc, j'ai pris cette chiffre parce que ça fait partie de mon adresse à la maison quand j'étais petite. Et c'était une adresse qui représentait cette maison multiculturelle. Et c'est aussi un petit souhait à moi qu'on ait 80 langues chez Ochenta.
Ah, génial, d'accord.
Voilà.
Moi, je croyais que c'était par rapport à Mira qui était...
80 minutes de contenu aussi.
Ouais.
Ça, c'était après. C'était,
d'accord, OK.
Rien à voir. Moi, j'ai vraiment voulu faire ça. OK, ce chiffre-là, ce titre-là représente la multiculturalité. Mm-hmm. Après la première série, Miha, effectivement, on les a publiées avec 10 minutes de contenu, 8 épisodes, 80 mm-hmm. minutes de contenu. C'était un format que je trouvais un peu parfait parce que, voilà, on s'appelle Ochenta, mais aussi mm-hmm. parce que je trouvais que l'histoire, il pourrait vraiment parfaitement se présenter dans ce mm-hmm. temps-là. Donc une jolie coïncidence et depuis le chiffre 80 me suit partout
et ouais.
même sur d'autres séries où on veut pas forcément faire 80 épisodes ou quoi. Là récemment on a sorti une série de Choisis ta propre aventure,
oui,
et donc
Atacama.
Oui, Adventure in Atacama, et en espagnol c'est Azafata en Atacama.
This is Adventure in Atacama, an audio game from the creative minds at Studio Ochenta. Prepare yourself for an epic audio journey around the world. At the end of each episode, you'll get to choose the journey you wish to take. But pay attention to your choices, because you might not get the ending you wished for.
Au total, ça fait 37 épisodes fois 2, parce que c'est deux langues, plus les bonus. Donc, en fait, finalement, l'équipe a produit 80 pièces de contenu. Voilà. Donc,
même quand tu veux pas.
Même quand je veux pas, ça, c'est comme ça. Voilà.
D'accord. Pourquoi est-ce que le studio Ochenta a vu le jour? Du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à sortir de ton travail freelance? Et est-ce que Ochenta 2022, c'est le même que Ochenta en 2019?
Pour répondre à la question, pourquoi j'ai lancé Ochenta, je pense qu'au bout d'un moment, je me suis dit que j'avais envie de raconter ma propre histoire et d'arrêter d'être derrière en production, en post-production, caché.
Le rideau.
Ouais, c'est ça. Je voulais vraiment pouvoir présenter une vision de l'audio que je ne voyais nulle part ailleurs. Et je ne pourrais pas faire ça sans me mettre en avant moi-même. Donc, c'était vraiment une espèce de... Voilà, une force en moi qui disait, bon, il faut quand même que les gens y reconnaissent mon travail et que je ne sois pas juste un nom en crédit, que je sois plus mise en avant, mais aussi que cette vision de l'audio, que ce soit diverse, que ce soit multiculturel, que ce soit à travers les cultures, etc., que ce soit à travers un studio que je représente.
Ouais. Ça va avec ta marque, ce que tu disais tout à l'heure aussi.
C'est ça, c'est ma marque, mais en plus grand. Et j'ai eu des opportunités juste avant de lancer Ochenta. J'ai eu plusieurs propositions de postes dans des super boîtes qui aujourd'hui existent et qui sont géniales. Mm-hmm. J'aurais pu être dans des super sociétés françaises ou américaines. Mm-hmm. Mais finalement, j'ai décidé de faire mon propre truc. Et aujourd'hui, je rencontre les chefs de ces boîtes et je dis, bah, j'ai fait le bon choix parce que j'ai fait ma propre vision des choses. Et je n'ai pas fait une erreur, je ne regrette absolument pas.
Et alors, quelles sont les histoires que Ochenta raconte ?
Alors, depuis le départ, je voulais absolument raconter les expériences des immigrés, des gens qui vivent la double culture, des gens qui ne sont jamais représentés vraiment dans les médias généralistes. Donc, à la base, en lançant avec Mira, c'était aussi de présenter ces histoires. Moi, j'adorais le fait que les Français ont aimé Mira parce qu'ils n'avaient jamais entendu une histoire d'une famille latine colombienne aussi aux États-Unis. Parce qu'ils connaissent que les trucs de narcos et tout ça. Donc, j'étais super fière de pouvoir présenter une autre perspective. Donc, toujours avec toutes nos séries, c'était de faire des choses qui te surprennent, qui te donnent cette nouvelle perspective sur une culture, sur une communauté. Et toujours avec des gens qui sont de cette communauté. Donc, c'était aussi ça qui m'a poussé à produire des choses, par exemple avec Mélanie Young, qui produit plusieurs podcasts indépendants
et
en France.
Qui est chroniqueuse Génération Podcast.
Voilà. Et de représenter son histoire à elle en France aussi. Et par la suite, toutes les autres séries qu'on a fait en originaux, et même pour nos clients à chaque fois, c'est vraiment à dire les langues ne devraient pas être une barrière, la culture ne devrait pas être une barrière pour comprendre l'un et l'autre. Voilà.
Donc vous avez gardé cet engagement et cette ambition qui est très forte depuis le début. Comment est-ce que le studio a évolué au cours de ces 3-4 années d'existence ?
Alors, à la base, c'était que moi. Et je travaillais avec des gens sur des petits projets, mais ce n'était pas très grand à la base. En 2019, première série, Miha, j'ai fait la voix dans les 3 versions. J'ai traduit toutes les versions. J'ai produit toutes les versions. En anglais, français, espagnol. Je ne ferai plus jamais ça. C'était génial, c'était innovateur et tout ça à l'époque. C'était impressionnant, je crois. Mais je suis très, très fière de l'équipe que j'ai construite depuis. Donc, depuis 2019, on a grandi. Maintenant, on est 8 avec 2 stagiaires. Et maintenant, on est vraiment une équipe multiculturelle de ouf. On produit maintenant, comme je disais, 27 langues. Et avec des projets de plus en plus ambitieux. Donc là, le plus grande série qu'on vient de sortir, c'était « Choisis ta propre aventure » en anglais et en espagnol. On a une autre série qui va sortir d'ici septembre, normalement, si tout va bien.
Donc normalement, au moment où cet épisode sortira.
Voilà, peut-être. On ne sait jamais, il y a toujours des dates de production.
Il y a toujours un truc.
Mais si tout va bien, en septembre, on aura une autre super, super grande série qui va sortir. Donc je suis bluffée par le talent de mon équipe et des gens avec qui je travaille tous les jours. Ils m'apprennent tous les jours des choses intéressantes. Ils apportent des perspectives incroyables et je suis super contente. Voilà. Et donc, Ochenta aujourd'hui, c'est plus grand. On est 8, comme Ochenta.
Oui, c'est vraiment
voilà,
ça.
Voilà, encore. Tu vois, je n'ai même pas fait exprès. Et voilà, et je vois des grandes, grandes choses à l'avenir et ça va continuer. Voilà.
Aujourd'hui, donc, tu le disais, vous avez le Choose Your Own Adventure qui est mi-escape game, mi-fiction, comédie, aventure avec Atacama. Vous avez aussi du true crime, vous parlez des sujets de société, d'héritage culturel, vous faites des fictions, enfin, vous faites de l'aventure. Est-ce que vous avez une spécialité en fait ? Et c'est peut-être pas justement dans le style, c'est plus sur le fond.
Je pense que c'est sur le fond surtout. On a fait une charte de valeurs d'Ochenta récemment d'ailleurs pour des nouvelles propositions d'idées de l'équipe. Et je pense que ça pourrait répondre plus à la question, parce que c'est vrai qu'on fait un peu de tout. On n'est pas fixé que sur une cible de femmes ou de, je ne sais pas, mexicains de l'âge de 25 à 35 ans. En fait, toutes les séries d'Ochenta doivent t'inspirer, doivent donner un peu de curiosité à apprendre quelque chose. Elles devraient toujours avoir des valeurs de famille, disons, de mettre en avant des choses qui pourraient s'écouter par toute la famille. Donc, même nos true crime, ils ne sont pas violents. Donc, en fait, tu peux l'écouter avec les gosses et tout. Et ils devraient vraiment te donner des émotions. Donc, que ce soit de rigoler ou un peu être sentimental, un peu comme Miha, ça devrait te faire sentir quelque chose. J'aime bien nous comparer comme à Pixar. Disons, toutes nos séries sont un peu expérimentaux comme ça. Et chacune a sa propre identité, tout ça. Mais à la fin de la journée, ils sont tous quelque chose qui te touche, qui t'émue. Et c'est ça qui nous pousse à faire des nouveaux projets intéressants et tout ça.
Alors, tous tes projets, donc, on le disait, ils sont maintenant dans plein de langues. Une question que j'ai, on parle souvent dans Génération Podcast de l'écosystème français, puisque c'est dans celui dans lequel, en tout cas celui qu'on a en commun, dans lequel on évolue. On a beaucoup parlé, en tout cas dans le passé aussi, de l'écosystème podcastique américain, là où beaucoup de choses ont commencé quand même dans le monde. Qu'est-ce qu'il en est en fait de l'écosystème du podcast espagnol? Est-ce qu'il y a un écosystème, je ne sais pas, qui est plus propre à un continent, je pense à l'Amérique du Sud, ou est-ce que c'est vraiment la langue? Enfin, comment est-ce que ça s'organise? Comment ça se fait? Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots?
Alors, il y a trois régions fixes pour l'espagnol, le podcast en espagnol. Il y a l'Espagne, il y a l'Amérique latine et il y a US Latinx.
Ah oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de langue officielle aux États-Unis.
Voilà, on n'a pas une langue officielle, mais on sait que la deuxième langue la plus parlée, c'est l'espagnol. Et donc, maintenant, cette audience-là, elle compte comme une autre pays, disons. D'auditeurs et auxquels on veut s'adresser par rapport à du contenu bilingue ou le faire disponible en espagnol et anglais en même temps. Et ça, c'est intéressant et je suis très, très intéressée à voir comment cette audience elle est soutenue par les plateformes et tout ça. Justement parce que quand on voit l'argent qui passe dans les plateformes aux États-Unis, s'il s'appliquait à une cible spécifique comme ça, ça pourrait grandir très vite. Donc, ce qui va avoir dans les prochaines années, ça va être cette audience latine aux États-Unis. Ensuite, on a l'Amérique latine qui est vraiment concentrée sur les trois pays, donc Argentine, Mexique et Colombie. Surtout parce que là, il y avait une culture de l'audio un petit peu plus fort. Et aussi, par rapport au dubbing et tout ça, ça avait déjà une culture d'écouter des choses doublées.
D'accord. Voilà.
Et aussi, il y a des choses intéressantes qui se passent par rapport aux différents genres là-bas. Donc, beaucoup d'horreurs, conspirationnistes. Voilà. Ça, c'est hyper populaire en Amérique latine. Et bien sûr, les comédies.
D'accord.
Parce que ça, c'est partie de notre culture.
Ouais.
Et en Espagne, ce qui est intéressant, c'est que des fois, il y a des choses qui se transfèrent de l'Amérique latine en Espagne et vice-versa. Mais c'est cas par cas. Pas forcément, on pourrait pas dire que toutes les séries Amérique latine marchent en Espagne et vice versa. Nous, on a eu beaucoup d'amour pour Miha en Espagne aussi parce qu'on était basé en Europe et beaucoup de notre promotion était dirigée vers l'Espagne parce qu'on on connaissait cette audience. Moi, je connaissais cette audience parce que je suis ici, je travaille avec des Espagnols des fois. Mais voilà, il faut savoir qu'en espagnol, l'écosystème il grandit. On a beaucoup, beaucoup des hispanophones dans le monde et je suis heureuse de pouvoir faire du contenu pour eux.
Laurie, est-ce que tu écoutes encore des podcasts? Est-ce que tu as encore le temps d'en écouter?
Well.
Pour le fun, je veux dire.
Alors, tous les matins, j'écoute The Daily et toutes les newscasts, Wall Street Journal, la BBC Minute, tout ça.
Ouais.
The Economist. J'écoute tous ces trucs de actu en anglais le matin. Et puis, toutes les deux semaines, on a une session d'écoute avec l'équipe où on contribue à un playlist sur des programmes intéressants. Et on écoute une heure et demie des podcasts différents.
Ensemble, du coup, bon, comment ça se passe?
Oui, ensemble. On fait une session d'une heure et demie à écouter des programmes. Des fois, c'est plus court parce qu'on a moins de temps, mais j'essaie de dédier au moins ça parce que ça nous fait apprendre à tous ce qui se passe. Et on le fait dans plusieurs langues. Donc, des fois, on le fait qu'en anglais, des fois, on le fait en espagnol. Une fois, on avait fait en allemand. Voilà. C'est juste pour un peu comprendre, même si on ne comprend pas la langue, en fait, avec l'oreille vraiment attentif à ce qui se passe, quels sont les formats intéressants, quelles sont les transitions qui se font, comment on pourrait être inspiré, quoi. Donc, j'essaie de me forcer à faire ça. depuis 6 mois, on fait ça. Parce que, justement, je trouvais que je n'avais plus le temps du tout d'écouter des choses. Et là, j'ai mis en place. Donc, on n'a plus d'excuses chez Ocenta de ne pas écouter les podcasts des autres.
Non, mais c'est ça, c'est voilà. Une bonne idée. Et alors, justement, à quelle vitesse est-ce que vous écoutez les podcasts?
Tu veux dire, oh, ah non, à la vitesse normale. Ouais. Je suis trilingue, mais...
mais quand même, pousser.
Mais quand même, faut pas pousser.
Comment est-ce que tu découvres de nouveaux podcasts, si tu arrives à en découvrir, à part, du coup, par cette playlist à laquelle tout le monde peut contribuer chez Ocenta?
Alors, je découvre par des newsletters, beaucoup, ou par recommandation. Donc, des gens... par exemple, même par des festivals, je vois des performances, je vois une panel dans laquelle quelqu'un parle de leur podcast, son podcast, je l'écoute en revenant dans l'avion.
Ouais.
Et après, je le recommande à 10 personnes. Parce que si je l'aime, je l'aime à fond.
Ouais.
Je suis comme ça parce que c'est surtout les podcasts indépendants, en fait, c'est ça qui a fait aimer Amiha aussi. Parce que les gens, quand ils ont écouté, ils l'ont tout de suite recommandé à d'autres personnes. Voilà. Donc, si tu écoutes quelque chose qui t'aime, que t'adores... faut pas le garder pour toi tout seul. C'est pas gentil, ça.
Est-ce que tu pourrais me parler d'un podcast que tu adores, justement, mais que les gens connaissent généralement pas ou peu?
En anglais ou en français?
Comme tu veux.
Je donnerai les deux, si tu veux. En anglais, je viens de découvrir cela et franchement, j'ai vraiment adoré parce qu'il est difficile de faire des podcasts sur le climat sans que ça soit saoulant. Et je ne le dis pas parce que je n'aime pas écouter l'actualité. J'écoute l'actualité tous les jours et je sais qu'on est pessimiste. Mais j'ai du mal à écouter des podcasts climatiques qui sont hyper pessimistes, par exemple. J'aime bien voir qu'il y a quand même de l'espoir. Donc, ce podcast s'appelle Life Sentence et c'est un podcast que j'ai découvert justement à un festival. Un podcast indépendant qui fait chaque épisode, c'est la période de temps qui nous reste pour cette partie de l'océan ou cet animal.
Wow.
Par exemple, il y a un épisode qui s'appelle Polar Bear et c'est sur les ours polaires. Et en 35 ans, il n'y aura plus d'ours polaires. Donc l'épisode, il dure 35 minutes.
Ah ouais, d'accord, ok.
Par exemple. Et ça, c'est une mix de fiction et documentaire. Et moi, j'aime beaucoup les formats qui cassent les formats, en fait, qui sont expérimentaux comme ça. Donc, celui-là, il m'a beaucoup, beaucoup inspirée et m'a donné des idées, justement, pour un peu casser cette négativité autour des podcasts climatiques. Parce que je pense qu'il faut avoir des podcasts climatiques, il faut parler de ce qui se passe. Mais quelle est la meilleure manière d'inspirer les gens voilà, de manière intéressante et sans leur donner l'impression qu'ils sont en train d'avoir une leçon. Quoi. Et donc, c'est là. Je recommande c'est là vivement. Life Sentence. Il n'est pas en français. Désolée. Il est
ça
en,
marche.
En
non, mais c'est bien.
et en français... non, mais récemment, j'ai rencontré une fille qui fait un podcast qui s'appelle Tant que je serai noire, qui vient d'être sélectionnée pour le Google Podcast Creator Program. Et j'aime beaucoup sa perspective et je recommanderais c'est là.
Est-ce que il y a un truc que tu voudrais dire à un ou une aspirant podcasteur, podcasteuse, quelqu'un qui se lance, peut-être que c'est quelque chose qu'on t'a dit, peut-être que c'est quelque chose qu'on t'a conseillé ou qu'on t'aurait aimé qu'on te dise quand tu t'es lancé?
Quand j'ai commencé à conseiller sur des podcasts, le premier conseil que j'ai donné à tout le monde, c'était ose, vas-y, fais-le. Personne d'autre va le faire. Tu es la seule personne avec cette perspective. Si tu es passionné par ton sujet, fais-le. Mais je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire parce que même en disant ça, ça m'a pris quand même 5 ans avant que je lance ma société. Parce que je ne dirais pas que je ne croyais pas ces mots, mais je me disais que je n'avais pas ma place encore. Tout ça a changé parce que justement, je suis allée à la rencontre des gens que j'admire énormément dans la radio publique et dans le podcast américain, dans un festival. Et en fait, ils se posaient la même question. Et c'est incroyable parce que eux, même les gens qui sont hyper établis, qui ont des podcasts qui sont hyper connus, de Radiotopia, je ne sais pas si tu connais, mais c'est un des studios de podcasts les plus anciens aux States. Eux aussi, ils se posaient ces mêmes questions-là. Donc, si tout le monde se demande, est-ce que j'ose, à n'importe quel niveau, il ne faut pas avoir peur. Ouais. Donc, moi, après ce festival, j'ai justement eu cette personne au-dessus de moi, avec plus d'expertise, qui m'a dit, mais vas-y.
Vas-y,
donc c'est exactement pareil. Et donc, je dirais, peu importe quel niveau tu as de production ou qu'est-ce que tu as peur de faire sur le podcast, si tu trouves que ton idée est vraiment a besoin d'être écoutée, et que tu penses que tu auras une audience, fais-le. Fais-le parce que tu perds rien. Peut-être un peu de temps, mais si tu crois vraiment à ça, tu ne vas pas avoir l'impression que tu perds du temps. Donc, voilà, c'est ça le conseil.
Pour terminer, et parce que je sais que vous aimez les recommandations de podcast, Laurie vous livre quelques recommandations sur Quoi écouter, qui a été produit par le studio Ocenta.
Si vous aimez des podcasts internationaux et vous aimez écouter des histoires de perspectives que vous ne connaissez pas, je recommande déjà notre série phare en français, c'est Miha Podcast. Les premières deux saisons sont disponibles en français. Donc ça s'écrit M-I-J-A Podcast. Et ça ne se prononce pas Mija, mais si ça vous aide à le trouver, vas-y. et aussi, si vous écoutez des podcasts en anglais pour apprendre plus l'anglais, je recommande aussi notre série Caper, qui est True Crime, pour ceux qui aiment le True Crime qui n'est pas violent. Voilà. Il est disponible en anglais, allemand, espagnol et italien.
Et du coup, tu ne fais plus en français, d'ailleurs ?
Depuis un moment, on a fait un changement de concentration dans le contenu, mais ça va arriver.
Ça va revenir.
On est en train de produire des choses, mais ils ne sont pas encore sortis.
Merci beaucoup, Laurie.
Merci à toi.
Je te souhaite un merveilleux été. J'ai hâte de voir, du coup, ce que vous nous préparez pour septembre. On croise les doigts pour ça, septembre.
Oui.
Et puis, voilà. Voilà, une conclusion un peu étrange. Je vous remercie sincèrement d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et j'adresse un merci tout spécial à Laurie Martinez pour sa disponibilité, la générosité de son partage. Et j'ai appris plein de choses. Je vous mets les recommandations de Laurie dans les notes de l'épisode ainsi que sur le blog www.écoutegenerationpodcast.com. Je vous invite à nous retrouver sur LinkedIn et Instagram sur les pages de Génération Podcast pour échanger à propos de cet épisode. En attendant, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous retrouve jeudi prochain pour de nouvelles histoires. À bientôt.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.